Chapitre 6. Le triomphe péniblement obtenu. 3 semaines plus tard, quand le moulin de Dorlcote était à son plus joli moment de toute l'année, et l'épais gazon parsemé de pâquerettes, Tom Tulliver revint un soir à la maison plus tôt qu'à l'ordinaire, et, en passant sur le pont, regarda avec son ancienne affection, profondément enracinée, la respectable maison de briques rouges, dont l'extérieur avait toujours l'air gai et hospitalier, quelque démeublées que fussent les chambres et quelque tristes que fussent les cœurs à l'intérieur. Les yeux gris-bleus de Tom brillent très agréablement, tandis qu'il regarde les fenêtres de la maison. Le pli de son front ne disparaît jamais, mais il ne lui va pas mal. Il semble indiquer une force de volonté pouvant peut-être exister sans dureté, quand le regard et la bouche ont leur expression la plus douce. Son pas ferme s'accélère et les coins de sa bouche se révoltent contre la compression qui veut empêcher un sourire. Les habitants du salon sont réunis, gardant leur silence habituel. M. Tulliver, dans son fauteuil, fatigué d'une longue course à cheval, poursuit le même cours d'idées, avec un regard usé, fixé principalement sur Maggie, qui se penche sur sa couture, tandis que sa mère prépare le thé. Ils lèvent tous les yeux surpris quand ils entendent le pas bien connu. « Et puis, qui a-t-il à présent, Tom ?» dit son père. « Tu viens un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. » « Oh, il n'y avait plus rien à faire pour moi, et je suis venu. Bonjour, mère. » Tom alla vers sa mère et l'embrassa, signe de bonne humeur chez lui. À peine un mot ou un regard s'était échangé entre lui et Maggie pendant ces 3 semaines, mais son mutisme ordinaire à la maison avait empêché que leurs parents y fissent attention. « Père, dit Tom, quand ils eurent fini de prendre le thé, savez-vous exactement combien il y a d'argent dans la boîte d'étain ?»« Seulement 193 livres, dit M. Tulliver. Tu as moins apporté dernièrement, mais les jeunes gens aiment à faire ce qui leur convient de leur argent. Cependant, je ne faisais pas, moi, ce qui me convenait avant d'être majeur. » Il parlait presque avec un mécontentement timide. « Êtes-vous bien sûr que ce soit la somme, père ? J'aimerais que vous preniez la peine de descendre ici la boîte. Je crois que vous avez peut-être fait une erreur. »« Comment aurais-je pu faire une erreur ? » dit le père sèchement. « Je l'ai compté assez souvent. Mais je puis aller la chercher si tu ne me crois pas. » C'était toujours une occupation que M. Tulliver aimait, dans sa triste vie, que de prendre la boîte pour en compter l'argent. « Ne quittez pas la chambre, ma mère, » dit Tom, en voyant sa mère se lever, pendant que son père montait l'escalier. « Et Maggie ne peut-elle pas sortir ? » dit Mme Tulliver. « Il faut bien que quelqu'un emporte le plateau et les tasses. »« Comme elle voudra, » dit Tom, avec indifférence. Ce fut une parole cruelle pour Maggie. Son cœur avait bondi à la soudaine conviction que Tom allait dire à son père que les dettes pourraient être payées. Et il aurait pu la laisser s'absenter pendant qu'il annonçait cette bonne nouvelle. Mais elle emporta le service et revint immédiatement. Le sentiment de l'injustice de son frère à son égard ne pouvait la dominer dans ce moment. Tom s'approcha du coin de la table près de son père quand la boîte d'étain y fut posée et ouverte. Et la chaude lumière du soir qui les éclairait rendit plus évidente la sombre tristesse des traits fatigués de ce père aux yeux noirs à côté de la joie comprimée du frais visage de son fils. La mère et la fille étaient assises à l'autre bout de la table, l'une avec une indifférence patiente, l'autre palpitant d'attente. M. Tulliver compta l'argent en le rangeant sur la table et dit en lançant un regard sec à Tom, « Voilà maintenant, tu vois bien que c'était juste. » Il s'arrêta et regarda l'argent avec un amer abattement. « Il manque plus de 300 livres. Il faudra un beau temps avant que je puisse les mettre de côté. » Quelle triste affaire que d'avoir perdu ces 40 livres sur le blé. Ce monde est trop difficile pour moi. Il a fallu 4 ans pour économiser cela. C'est beaucoup si je ne suis pas en terre avant 4 autres années. Il faudra que je me fie à toi pour les payer, ajouta-t-il d'une voix tremblante, si tu continues à penser de même maintenant que tu arrives à la majorité. Mais il est probable que tu m'enseveliras avant. Il regarda Tom avec le désir chagrin de quelques protestations. « Non, père, dit Tom, parlant avec énergie, quoique l'on pût aussi discerner un léger tremblement dans sa voix. vous vivrez assez pour voir toutes les dettes payées. Vous les paierez de votre propre main. » Son ton indiquait plus qu'une simple espérance ou résolution. Un léger choc électrique sembla parcourir M. Taleva, qui tenait les yeux fixés sur Tom avec un air de vive interrogation, tandis que Maggie, incapable de se contenir, s'élança vers son père et se mit à genoux devant lui. Tom garda le silence un moment avant de continuer. « Il y a déjà un certain temps que mon oncle Glegg m'a prêté un peu d'argent pour trafiquer, et cela m'a réussi. J'ai 320 livres à la banque. » Les bras de la mère entourèrent le cou de son fils dès que ces dernières paroles furent prononcées. Et elle dit, presque en pleurant, « Oh, mon garçon, je savais que tu arrangerais toutes choses quand tu serais un homme. » Mais le père gardait le silence. Ce flot d'émotions étouffait en lui tout pouvoir de parler. Tom et Maggie furent tous deux frappés de la crainte que le choc même de la joie ne lui devint fatal. Mais d'heureuses larmes vinrent le soulager. Sa large poitrine se souleva, les muscles de son visage se détendirent, et cet homme aux cheveux gris éclata en sanglots. L'accès de pleurs se calma peu à peu, et il reprit sa tranquillité et sa régularité de respiration. Enfin, il leva les yeux sur sa femme et dit d'une voix douce, « Bessie, viens m'embrasser maintenant. Le garçon t'a fait réparation. Tu retrouveras peut-être un peu d'aisance. » Quand il l'eut embrassé et qu'il eut serré sa main pendant une minute, ses pensées se reportèrent sur l'argent. « J'aimerais que tu eusses apporté les pièces d'or pour les voir, Tom, » dit-il, en touchant celle qui était sur la table. « Je me sentirai plus sûr. » « Vous les verrez demain, père. Mon oncle Dean a donné pour demain rendez-vous aux créanciers au Lion d'or et a commandé pour eux un dîner à 2 heures. Mon oncle Glegg et lui y seront tous deux. Cela a été annoncé dans le messager de samedi. » « Alors donc Wakeham le sait, » dit M. Taleva, l'œil en feu et brillant de triomphe. « Ah » continua-t-il, après cette interjection prolongée gutturalement en prenant sa tabatière, le seul luxe qu'il se fût accordé, et la frappant avec quelque réminiscence de son ancien air de défi, « Je cesserai d'être sous sa dépendance. Maintenant, quoi qu'il faille quitter le vieux moulin. Je croyais que j'aurais pu supporter de mourir ici, mais je ne le puis. Avons-nous un verre de quelque chose dans la maison, Bessie ?»« Oui, » dit Madame Taleva, en sortant son trousseau de clés bien diminué. « Il y a un peu d'eau-de-vie que Sir Dean m'a apportée quand j'étais malade. » « Donne-moi alors, donne-moi un peu. Je me sens légèrement faible. » « Tom, mon garçon, » dit-il d'une voix plus forte, quand il eut pris un peu d'eau-de-vie et d'eau, « tu leur feras un discours. Et moi je leur dirai que c'est toi qui as fourni la meilleure partie de l'argent. Ils verront bien que je suis honnête et que j'ai un honnête fils. » « Ah, Wakeham serait heureux d'avoir un fils comme le mien. Un beau garçon, bien droit, au lieu de cette pauvre créature contrefaite. Tu réussiras dans le monde, mon garçon. Tu verras peut-être le jour où Wakeham et son fils seront d'un cran ou deux plus bas que toi. Tu deviendras assez probablement associé de la maison, comme ton oncle Dean l'est devenu avant toi. Tu es en bon chemin pour cela. Et alors, rien ne t'empêchera de devenir riche. Et si tu es jamais assez riche, souviens-toi de ça, tâche de racheter le vieux moulin. » M. Taleva se renversa sur son fauteuil. Son esprit, qui pendant si longtemps n'avait été occupé que d'amers mécontentements et de tristes présages, se remplit soudainement, par la magie de la joie, de visions d'heureuses fortunes. Mais un doute indéfinissable l'empêchait de penser à cet heureux sort comme lui étant destiné à lui-même. « Touche là, mon garçon, » dit-il, en lui tendant soudainement la main. « C'est une grande affaire quand un homme peut être fier d'avoir un bon fils. J'ai eu ce bonheur. » Tom ne retrouva jamais dans sa vie d'heure aussi délicieuse que celle-là, et Maggie ne put s'empêcher d'oublier ses propres chagrins. Tom était bon, et sa sœur, avec cette douce humilité que développent en nous les moments de véritable admiration ou de reconnaissance, sentait que les fautes qu'il avait à lui pardonner n'avaient jamais été rachetées comme les siennes à lui. Ce soir-là, pour la première fois, elle n'éprouva aucune jalousie de ce qu'elle semblait être reléguée au dernier plan dans l'esprit de son père. On causa longtemps avant d'aller se coucher. Monsieur Tulliver désira naturellement entendre tous les détails des aventures commerciales de Tom, et les écouta avec un intérêt et un plaisir toujours croissants. Il était curieux de savoir ce qui s'était dit à chaque occasion, et le rôle de Bob Jakin dans les transactions le transporta surtout de sympathie pour l'ignorance heureuse de ce remarquable colporteur. L'histoire de la jeunesse de Bob, autant qu'elle était venue à la connaissance de M. Tulliver, fut rappelée avec tous les signes remarquables de ce qu'elle annonçait pour l'avenir, ce qui arrive toujours à l'égard des grands hommes. Il fut heureux que l'intérêt de ce récit domina le sentiment vague mais violent de triomphe sur Wakeham, qui eût autrement été la voie dans laquelle sa satisfaction se fût précipitée avec une dangereuse énergie. Même malgré ce contrepoids, cette disposition faisait de temps en temps redouter sa puissante irruption par de soudaines exclamations qui la révélaient. M. Tulliver fut longtemps à s'endormir ce soir-là, et le sommeil, quand il vint, fut rempli de songes actifs. À 5h30 du matin, comme Mme Tulliver s'habillait déjà, il l'épouvanta en se dressant subitement avec une sorte d'exclamation étouffée et promenant ses regards d'un air effaré sur les murs de la chambre. « Qu'est-ce que c'est, Monsieur Tulliver ?» dit sa femme. Il la regarda avec une expression encore vague et dit enfin « Ah, je rêvais. Ai-je fait du bruit ? Je croyais le tenir. » Chapitre 7. Le jour du remboursement. Monsieur Tulliver était un homme essentiellement sobre, prenant volontiers son verre de vin, mais ne dépassant jamais les bornes de la modération. Il avait reçu de la nature un tempérament bouillant qui n'avait nul besoin de ce feu liquide pour s'enflammer. Son animation pouvait se trouver au niveau d'une occasion excitante sans avoir besoin d'aucun moyen pour la renforcer. Et son désir d'eau-de-vie et d'eau montrait que cette joie trop inattendue était tombée avec un choc dangereux sur un corps accablé par 4 années de tristesse et par une nourriture grossière à laquelle il n'avait pas été habitué. Mais ce premier moment d'émotion passé, il parut retrouver ses forces en reprenant de l'énergie. Et le jour suivant, il se mit à table avec ses créanciers, l'œil brillant et les joues enflammées par l'idée qu'il allait de nouveau faire une honorable figure. Il ressemblait davantage dans ce moment au fier et confiant Tulliver d'autrefois qu'on eût pu le prévoir en le voyant une semaine auparavant monter à cheval, la tête baissée et jetant des regards furtifs sur ceux qui le forçaient à les remarquer, comme cela lui arrivait depuis 4 ans qu'il était sous le poids de sa faillite. Il fit son discours, énonça ses honnêtes principes avec son ancienne et confiante énergie, en faisant allusion au coquin et au sort qui avaient toujours été contre lui, mais dont il avait triomphé, jusqu'à un certain point, par de rudes efforts et à l'aide d'un bon fils, et conclut en racontant comment Tom avait gagné la plus grande partie de l'argent nécessaire. Mais son état d'excitation ou de triomphe hostile sembla pour un moment se fondre dans les sentiments plus purs de l'orgueil et de l'amour paternel, lorsque la santé de Tom ayant été portée, et son oncle Dean en ayant pris occasion de dire quelques mots d'éloge sur la conduite et sur le caractère de ce jeune homme, Tom se leva lui-même et fit l'unique discours qu'il prononça de sa vie. Il eût difficilement pu être plus bref. Il remercia ces messieurs de l'honneur qu'ils lui avaient fait. Il était heureux d'avoir pu aider son père à prouver son intégrité et à réhabiliter son nom. Et pour sa part, il espérait qu'il ne détruirait jamais cet ouvrage, ni ne déshonorerait jamais ce nom. Mais les applaudissements furent si bruyants, et Tom paraissait si distingué, si grand et si droit, que M. Tulliver fit remarquer, en manière d'explication à ses amis de droite et de gauche, qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour l'éducation de son fils. La société, après un repas très sobre, se sépara à 5 heures. Tom resta à St. Ogg's pour s'occuper de quelques affaires, et M. Tulliver remonta à cheval pour retourner chez lui et raconter à la pauvre Bessie et à la petite les mémorables choses qui s'étaient faites et dites. L'air d'animation peint sur ses traits était moins dû à la bonne chair ou à tout autre stimulant qu'à l'enivrement d'une joie triomphante. Il ne choisit pas de ruse écartée ce jour-là, mais s'avança lentement, la tête haute et le regard ouvert, le long de la rue principale conduisant au pont. Pourquoi ne pas rencontrer Wakeham? Cette contrariété le fâcha et disposa son esprit à l'irritation. Peut-être Wakeham était-il sorti de la ville tout exprès pour éviter de voir ou d'entendre une action honorable qui pouvait bien le froisser en quelques points. Alors, si Wakeham se présentait à lui, M. Tulliver le regarderait en face et la froide impudence dominatrice du coquin pourrait bien l'abandonner. Il apprendrait bientôt qu'un honnête homme ne continuerait pas à le servir plus longtemps et à prêter son intégrité à remplir une poche qui regorgeait déjà de gains déshonnêtes. Peut-être la chance commençait-elle à tourner. Peut-être que le diable n'avait pas toujours la meilleure carte du jeu dans ce monde. Tandis que ses idées fermentaient ainsi, M. Tulliver approchait des portes du moulin de Dorlcote et se trouva assez près pour voir un personnage bien connu en sortir sur un beau cheval noir. Ils se rencontrèrent à environ 50 pas des portes entre les grands châtaigniers, les ormeaux et le terrain élevé. « Tulliver, » dit Wakeham brusquement et avec plus de hauteur qu'à l'ordinaire. « Quelle bêtise avez-vous faite de laisser ces mottes dures sur le clos lion? Je vous ai dit ce qu'il en résulterait. Mais vous autres gens n'apprendrez jamais à cultiver avec méthode. « Oh !» dit Tulliver s'enflammant soudain. « Cherchez alors pour votre ferme quelqu'un d'autre qui vous demande des instructions. »« Vous avez bu, je suppose, » dit Wakeham, croyant réellement que c'était là l'explication de la figure enflammée et des yeux brillants de Tulliver. « Non, je n'ai pas bu, » dit celui-ci. « Je n'ai pas besoin de boire pour être décidé à ne pas servir plus longtemps sous un fripon. »« Très bien. Vous pourrez alors quitter mes terres dès demain. Retenez votre insolence et laissez-moi passer. » Tulliver avait mis son cheval en travers du chemin pour arrêter Wakeham. Non, je ne vous laisserai point passer, dit Tulliver, devenant encore plus furieux. Je vous dirai ce que je pense de vous auparavant. Vous êtes un trop grand coquin pour être pendu, vous êtes... Faites-moi place, ignorante brute, ou je vous passe dessus. Monsieur Tulliver, éperonnant son cheval et levant son fouet, prit un élan en avant, et le cheval de Wakeham, se cabrant et se reculant, désarçonna son cavalier et le lança de côté sur le terrain. Wakeham avait eu la présence d'esprit de lâcher de suite la bride, et comme le cheval n'avait fait qu'un écart de quelques pas et se tenait tranquille, il aurait pu se relever et remonter sans autre inconvénient qu'une contusion et une secousse. Mais avant qu'il pût se relever, Tulliver était sauté à bas de son cheval. La vue de cet homme dominateur, si longtemps haï et maintenant en son pouvoir, le jeta dans un accès frénétique de vengeance victorieuse qui sembla lui donner une agilité et une force surnaturelles. Il s'élança sur Wakeham, qui cherchait à se remettre sur pied, le saisit par le bras gauche, de manière à le faire peser de tout son poids sur le bras droit qui reposa par terre, et le frappa violemment sur le dos avec son manche de fouet. Wakeham appela au secours, mais aucun secours n'arriva jusqu'au moment où l'on entendit la voix perçante d'une femme crier « Père, père !» Wakeham sentit soudainement que quelque chose avait arrêté le bras de M. Tulliver, car il cessait de frapper, et l'étreinte de sa main se relâchait. « Ôte-toi de là, va-t'en » dit M. Tulliver avec colère. Mais il ne s'adressait pas à Wakeham. Le procureur se releva lentement, et en tournant la tête, il vit que le bras de Tulliver était retenu par une jeune fille, ou plutôt par la crainte de blesser une jeune fille qui s'y cramponnait de toute sa force juvénile. « Oh, Luke, ma mère, venez au secours de M. Wakeham !» cria Maggie en pleurs quand elle entendit des pas ardemment désirés. « Aidez-moi à monter sur ce petit cheval, » dit Wakeham à Luke, « alors je pourrai m'en tirer. Quoique, maudit sort, je crois avoir le bras luxé. » Avec quelques difficultés, Wakeham fut hissé sur le cheval de Tulliver. Puis il se tourna vers le meunier et lui dit, le visage pâle de rage, « Vous souffrirez de ceci, monsieur. Votre fille est témoin que vous m'avez assailli. » « Ça m'est égal, » dit M. Tulliver d'une voix rude et fière. « Allez leur montrer votre dos et dites-leur que je vous ai fustigé. Dites-leur que j'ai un peu égalisé les choses dans ce monde. » « Conduisez mon cheval à la maison avec moi, » dit Wakeham à Luke, « par le bac de Thornton, pas par la ville. »« Rentrez, père, » dit Maggie suppliante. Puis, voyant que Wakem était parti et qu'il n'y avait plus de violence possible, elle relâcha son étreinte et éclata en sanglots convulsifs, tandis que Mme Taleva restait là en silence et tremblante de frayeur. Mais Maggie s'aperçut qu'à mesure qu'elle abandonnait le bras de son père, celui-ci commençait à se prendre à elle et à s'y appuyer. La surprise arrêta ses sanglots. « Je me sens mal, défaillant, dit-il. Aide-moi à rentrer, Bessie. La tête me tourne, je souffre de la tête. » Il rentra lentement, soutenu par sa femme et sa fille, et atteignit son fauteuil en chancelant. Sa rougeur presque pourpre était remplacée par la pâleur, et sa main était froide. « Ne devrions-nous pas envoyer chercher le docteur ?» dit Mme Taleva. Il parut trop faible et souffrant pour l'entendre. Mais bientôt, comme elle disait à Maggie, « Envoie quelqu'un chercher le docteur !» il leva les yeux sur elle, la comprenant complètement, et dit « Le docteur ? Non, point de docteur. C'est ma tête, c'est tout. Aidez-moi à me coucher. » Quelle triste fin pour un jour qui s'était levé comme le commencement pour eux tous de temps meilleur. Mais une semence mélangée ne peut donner une récolte pure. Une demi-heure après que son père fut couché, Tom arriva. Bob Jakin était avec lui. Il venait féliciter le vieux maître, non sans quelque orgueil bien excusable, d'avoir contribué à la bonne chance de M. Tom. Et Tom avait pensé que rien ne plairait plus à son père pour terminer la journée qu'une conversation avec Bob. Mais Tom ne put employer sa soirée qu'à prévoir tristement les désagréables conséquences qu'aurait cette furieuse éruption de haine longtemps comprimée chez son père. Après qu'il eut entendu ces tristes nouvelles, il s'assit en silence. Il n'avait ni l'entrain ni le désir de rien raconter à sa mère ni à sa sœur au sujet du dîner. Elles pensèrent à peine à en demander les détails. Les fils variés de la trame de leur vie paraissaient si curieusement entremêlés qu'il ne pouvait y avoir aucune joie sans qu'elle fût aussitôt suivie d'une tristesse. Tom était écrasé par la pensée que tous ses efforts exemplaires étaient mis à néant par les fautes des autres. Maggie ressentait de nouveau et repassait dans sa tête le moment d'angoisse qui l'avait fait s'élancer pour se jeter sur le bras de son père et frissonnait en prévoyant vaguement les malheurs à venir. Aucun des trois ne s'inquiétait particulièrement de l'état de M. Taleva. Les symptômes ne rappelaient point sa première attaque si dangereuse, et il paraissait n'être que la conséquence naturelle de sa violente colère et de ses déploiements de force après plusieurs heures d'animation inusitée. Le repos le guérirait probablement. Tom, fatigué de cette journée agitée, s'endormit bientôt d'un profond sommeil. Il lui semblait qu'il venait seulement de se mettre au lit quand il se réveilla et vit sa mère debout près de lui, à la pâle lueur de l'aube. « Mon garçon, lève-toi tout de suite. J'ai envoyé chercher le docteur, et ton père désire que toi et Maggie vous veniez près de lui. »« Est-il plus mal, mère ? Il a beaucoup souffert de la tête toute la nuit. Mais il ne dit pas qu'il soit plus mal. Il a seulement dit tout à coup, « Bessie, amène le garçon et la petite, dis-leur de se hâter. » Maggie et Tom se levèrent rapidement à la froide lueur du crépuscule et entrèrent presque en même temps dans la chambre de leur père. Il les attendait, l'expression de la douleur empreinte sur son front, mais avec toute sa connaissance et une vive anxiété dans les yeux. Madame Taleva se tenait au pied du lit, épouvantée, tremblante et abattue. Maggie fut la première auprès du lit, mais le regard de son père fut pour Tom qui vint se mettre à côté d'elle. « Tom, mon fils, je suis atteint de manière à ne pas me relever. Il y en a eu trop dans ce monde pour moi, mon garçon. Mais tu as fait ce que tu as pu pour égaliser un peu les choses. Donne-moi encore la main, mon garçon, avant que je vous quitte. » Le père et le fils se serrèrent la main et se regardèrent un moment. Puis Tom dit en essayant de parler avec fermeté, « Avez-vous quelque désir, père, que je puisse remplir quand... « Oui, mon fils, tu tâcheras de racheter le moulin. Oui, père. Puis, voici ta mère. Tu tâcheras de la dédommager, autant que tu le pourras, de son mauvais sort. Puis, voici la petite. » Le père tourna les yeux vers Maggie avec un regard encore plus inquiet. Tandis qu'elle, le cœur brisé, tomba sur ses genoux, pour être plus près de ce visage si chéri et si usé par le chagrin, et qui avait été pour elle, pendant de longues années, l'objet du plus profond amour et la cause de la plus pénible épreuve. Tu en prendras soin, Tom. Ne te chagrine pas, ma petite. Il viendra quelqu'un qui t'aimera et qui prendra ton parti. Et tu seras bon pour elle, mon garçon. J'ai été bon pour ma sœur. Embrasse-moi, Maggie. Viens, Bessie. Tom, tu prendras soin de payer une tombe en briques afin que ta mère et moi nous puissions y reposer ensemble. » Il détourna ses yeux après avoir dit cela et garda le silence pendant quelques minutes, tandis que sa femme et les enfants le regardaient sans faire un mouvement. La lumière du jour devenait plus vive et il pouvait voir ses traits s'affaisser et ses yeux s'obscurcir. Mais enfin, il se tourna vers Tom et dit « J'ai eu mon tour, je l'ai battu. Il n'y avait rien que le juste. Je n'ai jamais rien demandé que la justice. » « Mais père, cher père, » dit Maggie, dont une inquiétude inexprimable dominait la douleur, « vous lui pardonnez, vous pardonnez à tout le monde à présent. » Il ne remua pas les yeux pour la regarder, mais il dit, « Non, ma petite, je ne lui pardonne pas. Que ferait le pardon? Je ne puis pas aimer un coquin. » Sa langue s'était épaissie, mais il désirait encore parler et remuait les lèvres, s'efforçant en vain d'articuler. Enfin, les mots se firent passage. « Est-ce que Dieu pardonne aux coquins? S'il le fait, il ne sera pas non plus sévère pour moi. » Ses mains s'agitèrent avec inquiétude, comme s'il voulait éloigner quelque obstacle qui pesait sur lui. Deux ou trois fois, il sortit de sa bouche quelques paroles entrecoupées. « Ce monde, de trop, honnête homme, compliqué. » Bientôt, ce ne furent plus que des murmures. Les yeux avaient cessé de discerner. Vint alors le silence final, mais pas encore celui de la mort. Pendant une heure environ, la poitrine se souleva, la respiration continua à se faire entendre, devenant de plus en plus lente, à mesure que la sueur froide humectait son front. Enfin arriva l'immobilité complète, et l'âme confusément éclairée du pauvre Taleva cessa pour toujours d'être fatiguée des difficultés de ce monde. Les secours étaient arrivés maintenant. Luke et sa femme étaient là, ainsi que M. Turnbull, venu trop tard pour toute autre chose que pour dire « c'est la mort ». Tom et Maggie redescendirent ensemble dans la chambre où la place de leur père était vide. Leurs yeux se dirigèrent sur le même point, et Maggie s'écria « Tom, pardonne-moi, aimons-nous toujours l'un l'autre ?» Et ils s'embrassèrent et pleurèrent ensemble.